Bonjour.
Le sauvetage, c'est toute votre vie, une véritable vocation. Bruno Hiel, quelle est née comment, cette vocation?
Oui, j'étais toujours un peu dans le sauvetage. Et puis jeune, on était né dans une alpage, on a aidé à tout le monde. Et puis après, je suis venu ici à Zermatt. Il y a le chef de la colonne de secours qui était avant, il est mort en 1980 à cause d'un accident ski. Puis après, c'est le club alpin de Zermatt avec la commune, ils m'ont demandé si je pouvais prendre la place. Alors j'ai dit oui, j'ai pris la place et puis ça a duré 34 ans, j'étais responsable du secours ici à Zermatt.
Et le sauvetage, alors vous le pratiquez autant hein, dans les Alpes que dans l'Himalaya. Est-ce que les moyens de sauvetage ou les conditions sont extrêmement différentes ou il y a quand même des choses qui se ressemblent?
C'est clair, dans l'Himalaya, ici en Suisse ou bien dans les Alpes, on a toujours amélioré la technique, surtout dans les crevasses, long lane, on a fait beaucoup de nouvelles techniques. Et puis après, on était convoqué pour un accident à Népal. Personne n'a voulu aller pour un alpiniste slovène. Et puis nous, on est descendu sans promettre. On dit, on essaye, si ça va, ça va. Si ça va pas, on peut faire un essai. Puis on est descendu à Népal. Et puis finalement, quand nous, on était en bas, c'était trop tard. La personne, il était mort. L'alpiniste, il était mort. Mais le sauvetage elle-même, à cause de l'altitude, c'était pas beaucoup différent que nous. C'est l'altitude, c'était le problème un peu pour les pilotes. Et puis Népal, il nous a demandé pour faire une formation. Puis nous, on est rentrés, on en discute, c'est clair, pourquoi pas leur donner l'expérience qu'on a ici depuis 30 ans, donner direct ou bien les laisser faire beaucoup d'essais, puis avoir risqué des accidents chez eux. On a décidé, on apporte la technique à nous, à eux. Chez eux, c'est la même chose, c'est l'altitude. C'est différent, c'est encore une étage plus haut que chez nous. Nous, on monte jusqu'à 4500 mètres et puis là-bas, c'est des 8000. Alors, c'est le gros problème, c'est l'altitude. La technique, c'est la même.
Alors, vous êtes surnommé le bricoleur des cimes. Vous avez donc mis sur pied des techniques particulières pour rendre le travail des sauveteurs plus efficace. Qu'est-ce que vous avez inventé? Qu'est-ce que vous avez apporté, Bruno Hielk?
Claire, on avait le problème dans les crevasses. Les personnes, ils étaient blessées dans les crevasses. On les sortait avec des mouflages, avec des cordes. Ça donnait beaucoup d'à-coups. Alors, on a décidé, on peut pas continuer comme ça. Parce que jamais aimé trois fois le même problème. Une fois, ça va. Deuxième fois, la même chose. C'était pas bon. Et puis, une troisième fois, je me suis toujours dit, il faut changer la technique, la méthode ou bien le matériel. Alors, pour le sauvetage crevasses, on a fabriqué un trépied qui était adapté sur les glaciers. On peut, le sauveteur, il peut descendre avec deux cordes, et puis on peut crocher le blessé avec le sauveteur et tirer en surface les deux ensemble. La même chose, c'était pour les personnes coincées. C'est 18 cm, les personnes, ils ont bloqué, et puis on n'arrivait pas à descendre. Là, on a travaillé avec le compresseur pour élargir la crevasse, puis on a eu beaucoup de succès avec ça. Après, la variable moderne, les parois verticales, on n'arrivait pas à approcher avec les cordes qu'on avait à ce moment-là sur les hélicoptères, c'était 25 mètres d'œil. On a prolongé, puis on a ajouté la technique long line jusqu'à 220 mètres. On était pendu sur les hélicoptères pour approcher ces parois. Après, on est venu les parapentes. Les parapentes, ils étaient bloqués sur les câbles ou bien sur les arbres. On a changé un peu la technique aussi. On a fabriqué un appareil pour aller sur le câble pour sauver ces parapentistes qui s'étaient pendus sur les câbles. Et puis, il manquait un brancard. Les brancards, on avait beaucoup de brancards. Ils étaient lourds et trop grands et puis pas assez solides. Alors, je me suis mis au boulot pour fabriquer un brancard qu'on utilise partout un peu. On a toujours modifié les appareils, la technique ou bien les méthodes.
Un côté un peu MacGyver, donc. Les qualités d'un beau sauveteur, Bruno Hielk, est-ce que c'est déjà peut-être de savoir se blinder? Parce que parfois, on a beau être le meilleur des sauveteurs, avoir les bonnes méthodes, les bonnes techniques, on ne parvient pas toujours à sauver les gens.
Ça, c'est clair. Un accident, nous, on peut seulement aider quand l'accident il s'est produit et puis on peut essayer de faire la meilleure technique pour sortir, pour aider à ces personnes, cet alpiniste qui a un accident. Mais si la question survit, C'est clair, on peut aider. S'il y a un qui est blessé, si on amène le médecin sur place, au lieu de 20 ans ou 30 ans en arrière où on est descendu le blessé vers un médecin au village, on apporte le médecin sur place, ça augmente la chance de survie, et puis avec les hélicoptères, on est aussi plus rapide sur place, ça monte les chances de survie. Mais vraiment, pendant l'accident, si le temps, l'alpiniste il est vivant ou pas vivant, nous, on ne peut pas influencer. On doit prendre sur place comme il est.
Alors Bruno Yel est qu'autrefois réservé aux spécialistes. La montagne aujourd'hui est accessible à tout le monde, ou presque. Cette démocratisation de la montagne, ça a beaucoup changé votre travail de sauveteur?
C'est clair, ça a beaucoup changé à cause les techniques modernes, les remontées mécaniques qui montent très haut dans les Alpes, ça amène les gens sans trop de marche approche à des hautes altitudes. Et puis le matériel de sport, par exemple les skis, ça a beaucoup changé, ça permet des skis hors piste. Piste, avant avec les vieux skis, c'était difficile, la technique, c'était pas facile à skier dans la neige poudreuse, surtout si la neige elle est encore en mauvaise condition. Aujourd'hui, avec le snowboard et avec les skis larges, c'est tout facile, tout le monde y sort les pistes, ça donne des problèmes, les gens qui sont bloqués dans les couloirs ou bien dans les parois extrêmes. Ça a beaucoup changé en haute altitude aussi, les piolets gramponnages pour la glace, ça a beaucoup changé. Il y a des techniques et des passages qui sont possibles. Il y a 30 ans en arrière, ce n'était pas possible. C'est le matériel qui a beaucoup changé. Et puis les jeunes, ils sont très forts aussi, toujours plus jeunes. Des fois, ils connaissent pas assez les dangers et puis ils vont quand même. Et puis notre problème, c'était aussi un peu lundi. Les téléphones portatifs, ça provoque, les gens y vont, et puis si ça va pas, on sort le téléphone, ils téléphonent pour faire appeler du secours. Ça a beaucoup changé à cause de ça. Le téléphone, c'était aussi la bonne chose. Quand il y a un accident, il arrive dans les minutes. Avant, c'était les heures. Maintenant, il arrive dans les mêmes minutes, et puis on sait où ce qui est arrivé, puis quel endroit ils sont. Ça s'est beaucoup aidé, mais ça aussi, le compte. Ils essayent de prendre des risques, ils vont quand même, et puis si ça va, ils téléphonent. Ça a beaucoup changé.
Alors justement, les gens qui s'aventurent dans la montagne, que ce soit en hiver ou en été, pour de la marche ou pour des sports d'hiver, qui ne maîtrisent pas bien le sport ou qui ne maîtrisent pas bien le lieu, et qui se retrouvent dans des situations dangereuses et qui appellent les sauveteurs, est-ce que c'est des choses qui vous énervent, ces gens qui ne sont pas habitués et qui s'aventurent quand même ?
Claire, notre boulot, c'est aller aider à ces gens, mais des fois, on doit calculer les risques. Les risques qu'ils ont eux, quand ils sont bloqués quelque part, alors s'ils sont pas blessés, rien du tout, et puis pas danger d'avalanche, pas danger de chute des pierres, on essaye de les faire attendre jusqu'à la météo se permet de les chercher. Mais si des fois, s'ils sont blessés ou bien en danger, à ce moment-là, on doit essayer de faire quelque chose, parce que il faut toujours sortir pour après on peut se dire, on a essayé, on a fait le maximum pour sauver cette vie, parce que si on reste à la maison, c'est pas toujours garanti qu'on a fait la bonne chose. Mon devis, c'était toujours sortir, et puis si ça allait plus, stopper et arrêter le secours, ou reporter jusqu'on peut être plus garanti de sécurité à nous, les sauveteurs.
Aujourd'hui, on peut dire que les progrès technologiques ont rendu la montagne plus sûre, plus certaine, plus facile.
C'est clair, la technique, les appareils, tout ça, ça permet d'aller plus loin, qui était dans vieux temps. Surtout les skis extrêmes, ça a beaucoup monté, ils vont dans les parois. Il y a 20 ans en arrière, on ne pensait jamais avoir un skieur là dans cette paroi ou bien dans ses faces. Aujourd'hui, tout qui est possible, partout à la neige, ils arrivent à descendre avec les skis. Et puis, il y a des très forts qui connaissent bien l'endroit, ils choisissent bien les traîneurs, et puis, souvent, ils savent comment ils font. Ils vont seulement dans les bonnes conditions. Mais malheureusement, on a beaucoup de gens qui viennent dans les stations, et ils voient des films ou bien ils voient des images un peu extrêmes, et puis ils essaient de faire la même chose, et puis après, tout d'un coup, ils sont pris dans un problème, et puis on doit les sortir. C'est ça un peu notre problème aujourd'hui, le ski extrême. L'alpiniste, c'était un peu les pays de l'Est, quand c'est ouvert les pays de l'Est, ils sont venus ici, et puis ils n'avaient pas beaucoup d'argent, et la météo, il n'était pas bon, ils ont fait un grand voyage, et puis ils prenaient des risques aussi beaucoup plus grands qu'un qui habite en Suisse, que la montagne, il est proche, C'est clair, si on fait un long voyage et puis on n'a pas beaucoup d'argent, on prend automatiquement plus de risques pour faire cette somme. Et puis surtout le cervet, il y en a beaucoup qui viennent en Zermatt, c'est seulement le cervet qui compte. Et puis s'il n'est pas en bonne condition, ils essayent la même chose. Ils ne vont pas dans une autre course parce que leur intéresse pas, c'est le cervet. Ils ont le cervet dans la tête et puis ils essayent à faire le cervet. Même si les conditions ne sont pas bonnes.
Et c'est la même chose, le même genre de problème qui est rencontré, qui est le même genre de problème qui sont rencontrés, pardon, dans l'Himalaya, au Népal, avec l'Everest qui tente des gens qui n'ont pas les moyens et les connaissances nécessaires. D'ailleurs, le Népal, vous allez y retourner très bientôt, Bruno Jelk, pour poursuivre la formation de sauveteurs et de Sherpas sur place.
Oui, on retourne le 13 novembre. On reste pour 3, éventuellement 4 semaines. Et puis le programme, c'est former encore de nouveaux pilotes, un cours répétition pour les pilotes qu'on a déjà formés, un cours répétition d'une semaine pour les Sherpas qu'on a formés. Et puis après, on fait un camp médical. Ça veut dire on transporte des médecins avec des infirmières dans une vallée où il n'y a pas de service médical. On reste une semaine là-haut pour soigner les indigènes. Et puis en plus, on a déjà conçu des écoles. Après le tremblement de terre, il y a tout qui est cassé. On a conçu deux écoles et puis on va construire encore 3 autres écoles. Alors on va organiser les projets pour les 3 autres écoles.
On vous souhaite de bons voyages. On vous remercie beaucoup d'avoir passé ces quelques instants ce matin avec nous. Et puis, je rappelle que vous êtes donné une conférence ce soir à 19h à l'Aula des Jeunes Rives à l'Université de Neuchâtel. Une conférence qui est ouverte à tous, qui est organisée par le service des sports de l'Université de Neuchâtel. On vous remercie. On vous souhaite une très belle journée.
Merci. Merci à vous aussi.